Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'Info JO sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Timothée, votre présentateur. Et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 4e 2 de Sainte-Clotilde. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler de l'événement qui a porté la France entière cet été, les Jeux Olympiques. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons un spécialiste du basket français. Nous accueillerons ensuite le spécialiste des deux frères qui ont fait sensation au ping-pong. Nous finirons cette émission avec un spécialiste du judo. C'est parti pour l'Info JO.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueur Paul s'installe au studio. Comment ça va ?
Très bien, et vous ?
Ça va, ça va. Aujourd'hui, tu viens nous parler de la magnifique médaille d'argent qu'a gagnée le basket français.
En effet, durant les JO, l'équipe de France de basket a battu le Brésil, le Japon, le Canada, mais a malheureusement perdu contre l'Allemagne. La France a retrouvé cette équipe en demi-finale et les bas, la France va en finale pour affronter l'équipe des États-Unis. Le joueur le plus connu de l'équipe de France s'appelle Wembanyama, mais il y en a d'autres, très connus comme Fournier ou Rudy Gobert. Dans l'équipe américaine, il y a LeBron James ou Stephen Curry. Le match fut très serré. La France est revenue à 3 points des Américains jusqu'à ce que Stephen Curry mette 3 points en quelques minutes, clouant ainsi la finale.
Mais combien ont été payés les joueurs de l'équipe de France pour leur médaille d'argent ?
Les joueurs ont gagné 40 000 euros pour leur médaille.
Merci Paul. Notre chroniqueur Thomas s'installe en studio. Comment ça va ?
Très bien, merci.
Aujourd'hui, tu viens nous parler de la médaille de bronze des deux frères Lebrun. Qui sont les frères Lebrun ?
Aujourd'hui, je vais vous présenter les frères Lebrun, qui sont des joueurs de ping-pong français participant au JO 2024.
Pourquoi sont-ils connus en...
Félix, le plus jeune, a 19 ans et a participé pour la première fois au JO. Alexis, lui, a participé 2 fois. Quand ils ont joué en duo, ils ont gagné la médaille de bronze, en se faisant éliminer par une équipe chinoise.
Quels sont les effets de leur victoire ?
Après les JO, il y a eu un énorme afflux des inscriptions dans les clubs du ping-pong, comme pour le judo.
Merci Thomas. On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale. On vient d'écouter la musique officielle des Jeux Olympiques, Parade. L'émission L'Info JO continue sur Radio Campus Paris. Notre chroniqueur Dimitri s'installe en studio. Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Aujourd'hui, tu viens nous parler des magnifiques médailles qu'ont glanées les judokas.
Pour moi, le meilleur sport des JO était le judo.
Pourquoi tu penses ça ?
Déjà, c'est le meilleur pourvoyeur de médailles françaises et les judokas et les judokates étaient galvanisés par le public à domicile. Il gagne avec 2 en or, 2 médailles d'or, 2 d'argent, 2 en bronze. C'est un exploit.
Mais quels étaient les meilleurs combats ?
Les meilleurs combats étaient ceux de la finale par équipe, France-Japon, comme il y a 4 ans, on avait gagné. Après des combats très serrés, on a fini par gagner. On a battu les créateurs du sport à domicile. Heureusement que Teddy Riner était là. On espère qu'il sera là en 2028 à Los Angeles.
Merci Dimitri. C'est la fin de notre émission L'Info JO. Merci à Noé Ovar, Dimitri Maurice David, Thomas Châtelain, Paul Kieu. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le journal sportif du 20h01 sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Blaise Médour, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves du 4e 2 du Collège Saint-Clotilde. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler du football professionnel. Au programme, aujourd'hui, pour en parler, nous écoutons Thomas qui va nous parler du Ballon d'Or.
Bonjour Blaise. Aujourd'hui, comme l'a dit Blaise, je vais présenter le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or est une récompense attribuée au meilleur footballeur de l'année, créée en 1956 par le magazine France Football, attribuée par des journalistes internationaux à partir de la saison 2021-2022. Le prix est attribué à la fin de chaque saison. Lionel Messi est le joueur le plus titré depuis la création du Ballon d'Or. Il en a gagné 8. Et à l'origine, le Ballon d'Or est desservi que aux joueurs européens.
Nous accueillons ensuite Gaspard qui va nous parler de Ronaldo et sa rivalité avec Messi.
Ronaldo est un joueur de foot portugais de 39 ans, jouant à Al Nassr. C'est le meilleur joueur du monde. Il fait 1m88 pour 90 kg et a l'une des plus grandes détentes du foot. Il saute à une hauteur de 1m5. Son plus grand rival est Lionel Messi, un joueur argentin jouant dans l'équipe de Miami. Je le rappelle, il occupe la place du joueur avec le plus de ballons d'or du monde, avec 8 ballons d'or précisément. C'est une récompense qui est attribuée au meilleur joueur de l'année.
Mais en vrai, qui est le meilleur des deux joueurs d'après les statistiques? Noah, peux-tu répondre à cette question?
Selon les statistiques, Messi compte 370 passes décisives pour 850 buts. Il a gagné beaucoup de compétitions, dont la Champions League ou encore la Coupe du Monde. Et il a, d'après la majorité des fans du football, la meilleure vision de jeu de toute l'histoire du football. Et pour les statistiques de Ronaldo, il en compte 662 passes décisives pour 936 buts. Il a gagné la Coupe d'Europe et a gagné la Champions League 5 fois. Et pour finir, il a gagné 5 ballons d'or. Donc j'en déduis que statistiquement, Ronaldo est le meilleur joueur des deux et même peut-être du monde.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker. Motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord. It's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice. The best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon. An average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon. Fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater.
Taking chances, word tap dancing with wolves in an ice arena out there, deep in the woods of Arizona. The sun be out, life's a riding game.
Radio Campus Paris.
On sait maintenant qu'il existe des rivalités entre joueurs. Nous allons voir qu'il existe des rivalités entre clubs, avec Jacques qui va nous présenter un exemple.
Le PSG et l'OM sont les deux plus grands clubs en France. Statistiquement parlant, le PSG ont beaucoup plus de trophées. 38 Ligue 1, 11 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue. Du côté de l'OM, ils ont 32 Ligue 1, 2 Coupes de France et 0 Coupe de la Ligue. En ce moment même, au total, 35 trophées. L'OM ont 35 trophées. Aujourd'hui, on constate que le PSG domine l'OM en termes de trophées. Maintenant, parlons des supporters. Les supporters de ces deux clubs ont eu énormément de critiques sur leur violence envers les supporters, lancés d'objets ou des feux d'artifice. On en conclut que ces deux clubs ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Pour moi, je préfère l'OM car c'est un club de cœur. Si l'OM avait eu la même fortune que le PSG, ils auraient gagné plus de trophées que le PSG.
Merci Jacques, c'est la fin de notre mission, le journal sportif du 20h01. Merci à Gaspard, Noah, Jacques et Thomas de bien avoir conclu et participé à notre émission. Merci à Grégoire pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Allô la Terre sur Radio Campus Paris 93,9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Marc, votre présentateur, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de 4ème 2 de Sainte-Clotilde. Nous sommes en direct sur le 93,9 FM et nous allons parler d'espace dans notre émission Allô la Terre. Au programme aujourd'hui, pour en parler, je vous présenterai la planète Jupiter. Nous accueillerons ensuite Nazaré qui nous parlera de la colonisation de Mars. Nous finirons cette émission avec Anne et Louis qui débattront au sujet de l'opposition astrologie et astronomie. C'est parti pour Allô la Terre.
Les ateliers de Radio Campus Paris.
Jupiter est-elle la meilleure planète ? Ben non, Jupiter est une planète moyenne. Certes, c'est la plus grosse planète et l'une des plus belles, sauf qu'il y a beaucoup d'inconvénients. Déjà, vu que Jupiter est une planète gazeuse, il n'y a pas de sol, donc c'est inhabitable. Il y a également énormément de tempêtes, donc voyager à Jupiter est très risqué. Il y a en tout 95 lunes sur Jupiter, ce qui rend la planète hyper claire. Une chose positive, c'est que Jupiter est l'une des planètes les plus intéressantes pour l'observateur amateur. Elle est généralement la planète la plus brillante après Vénus. Donc c'est une planète très intéressante, mais qui n'est pas du tout adaptée à l'homme. Il serait plus réaliste de coloniser Mars malgré le fait que la température moyenne sur cette planète est largement inférieure à celle de la Terre, c'est-à-dire moins 63 degrés. N'est-ce pas, Nazari ?
En effet, Marc, Elon Musk, le patron de SpaceX, veut que ce rêve devienne la réalité. Il imagine une ville sur la planète rouge avec des millions de personnes de 20 ans. Pour ça, il a créé le Starship, une grande fusée capable de transporter des humains et des matériaux sur Mars. En juin 2024, le Starship a fait un vol réussi, ce qui rapproche Musk de son objectif. Mais certains scientifiques doutent de la réalisation du projet, pensant que Mars est trop dangereux pour que l'on puisse vivre facilement. Et pourtant, Musk reste déterminé à faire et à réussir le projet. Alors, est-ce que Musk va réussir à reprendre Mars habitable, ou est-ce que juste un rêve impossible ? Seul l'avenir nous le dira.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
I see dead people.
Hey, Monster on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak though. Man down, call like Amber the Lambs, tell him breathe bro. Nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo. What's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton? The industry can hate me, fuck them all and they mama. How many ops you really got? I mean it's too many options. I'm finna pass on this body, I'm John Stockton.
On vient d'écouter Not Like Us de Kendrick Lamar. L'émission Allô la Terre continue sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, nous avons deux invités pour parler de ce sujet passionnant, le ciel. Can est un scientifique spécialiste d'astronomie et Louis est un astrologue expérimenté. Alors, science et astrologie, est-ce compatible ?
Merci de m'inviter. Je suis là pour expliquer que l'astronomie, c'est une science basée sur des faits, alors que l'astrologie repose sur des croyances sans preuves scientifiques.
Merci pour l'invitation. C'est vrai que l'astrologie n'est pas une science, mais c'est un art. Les horoscopes et les signes du zodiaque aident beaucoup de gens à mieux se comprendre et à donner du sens à leur vie.
Première question, l'astrologie est-elle basée sur des faits ou plutôt sur des symboles ?
L'astrologie vient d'idées anciennes sur le ciel. Les constellations du zodiaque, par exemple, sont des regroupements d'étoiles qui n'ont pas de lien réel avec nous. Aujourd'hui, on sait que ces positions ont changé avec le temps.
Peut-être, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Par exemple, les traits des signes astrologiques correspondent souvent aux personnalités des gens. Ça aide à mieux se connaître, même si c'est pas scientifique.
Oui, mais en réalité, c'est souvent un hasard. Les études montrent qu'il n'y a aucun lien entre les positions des astres et la personnalité ou le destin. C'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. On se souvient de ce qui marche et on oublie le reste.
Peut-être, mais pourquoi l'astrologie aide-t-elle autant de gens ? Si ça leur fait du bien, il y a forcément quelque chose, non ?
Khan, pourquoi l'astrologie plaît-elle autant ?
Parce qu'elle donne des réponses simples à des questions compliquées. Elle rassure face à l'incertitude, mais ce n'est pas parce qu'une idée réconforte qu'elle est vraie. La science, elle, cherche à prouver ce qu'elle avance.
La science est importante, mais elle n'explique pas tout. Parfois, il faut aussi écouter son intuition, et l'astrologie aussi permet de rêver et d'explorer des mystères.
Dernière question, pensez-vous que science et astrologie peuvent coexister ?
Oui, mais il faut être clair, l'astronomie est une science. L'astrologie, c'est une croyance, il ne faut pas la mélanger.
Je suis d'accord, tant que chacun respecte les croyances des autres, elles peuvent coexister. L'important, c'est que chacun trouve ce qui l'aide à avancer.
Merci à vous deux pour ce débat, à bientôt pour une nouvelle émission. C'est la fin de notre émission Allô la Terre, merci à Ken, Louis et Nazari d'avoir participé à cette émission. Merci à Lucien pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Total Space de l'Océan sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis Jessica, votre présentatrice, et je vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de Sainte-Clotilde en 4e 2. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM et nous allons parler du point Nemo. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Jade Gédou qui parlera de Chris Brown. Nous écouterons ensuite Octave Borde qui parlera des dangers du point Nemo. Nous accueillerons ensuite Julien Mécard-Montaville qui parlera du Bloop. Nous finirons cette émission avec Marion Boulet qui parlera des déchets du point Nemo. C'est parti pour les Total Spice de l'Océan.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse Jade Gédou s'installe en studio. Comment ça va ?
Bonjour, je vais bien et vous ?
Ça va super. Aujourd'hui, tu viens nous parler de Chris Brown.
Effectivement. Alors Chris Brown est né en 1962. C'est un explorateur et aventurier britannique connu pour avoir tenté de devenir la première personne de l'histoire à visiter les 8 pôles continentaux d'inaccessibilité de la Terre. À ce jour, il a atteint 6 des 8 pôles. Il détient un record du monde pour le plus grand nombre de plongeons dans une piscine en une heure et a été élu membre honoraire à vie de la Scientific Exploration Society. Il est également le père de l'athlète olympique de bobsleigh Axel Brown.
Mais qu'a fait Chris Brown ?
Chris Brown est devenu le premier homme à nager au point Nemo, le point le plus éloigné de toute vie humaine des terres émergées. Il s'est ensuite rendu à Tahiti à bord du Hans Explorer et s'est en allé en montagne afin de trouver le point d'inaccessibilité de l'île.
Merci Jade Gédou.
Pas de problème.
Notre chroniqueur Octave Borde s'installe en studio. Comment ça va ?
Bonjour, ça va et vous ?
Ça va. Aujourd'hui, tu viens nous parler des dangers du point Nemo.
Oui, en effet, le point Nemo est dangereux car des débris spatiaux sont tombés à plus de 27 000 km/h. Les débris spatiaux sont dangereux pour l'être humain. Il est donc primordial de les éloigner le plus possible de la Terre. Les autorités ont donc pris la décision de les faire tomber au point le plus éloigné de toute Terre, le point Nemo. Par exemple, la station spatiale chinoise Tiangong 1 est tombée en 2018.
Mais y a-t-il déjà eu des victimes ?
Non, jamais. Par contre, près de 300 épaves spatiales gisent dans les profondeurs du point Nemo.
Merci Octave Borde.
De rien.
Notre chroniqueur Julien Mécard-Montaville s'installe en studio. Comment ça va ?
Ça va et vous ?
Ça va. Aujourd'hui, tu viens nous parler du Bloop.
Le Bloop est un monstre marin qui rôde dans les profondeurs du point Nemo. Par exemple, il rôde 2 km en dessous de la mer. Il mesure 18 mètres de long et a une très grande bouche, possédant une centaine de dents. Évidemment, le bloop n'existe pas. Il provient des livres de Jules Verne, un grand écrivain français.
Merci Julien Mécard-Montaville. Notre chroniqueuse Marion Boulet s'installe en studio. Aujourd'hui, tu viens nous parler des déchets du Point Nemo.
Oui, tout à fait.
Pourquoi y a-t-il autant de déchets au Point Nemo ?
Le Point Nemo est tout d'abord un endroit pour stocker les déchets spatiaux qui tombent de l'espace. C'est pour ça qu'il y a autant de déchets. Il y a plus de 350 déchets accumulés dans le Point Nemo, surtout des vaisseaux spatiaux. C'est pour ça qu'on l'appelle le cimetière à déchets spatiaux.
Pourquoi tous les débris spatiaux tombent à cet endroit ?
Alors, c'est une très bonne question. Le Point Nemo est l'endroit le plus éloigné des Terres, 2700 km, dont le plus proche de l'espace en hauteur. C'est pour ça qu'ils ont pris le Point Nemo, pour l'endroit à déchets. Cela pollue beaucoup les fonds marins. C'est l'endroit le plus mort de l'océan. Bon, pour conclure, le Point Nemo, c'est vraiment la poubelle de la planète. Merci de m'avoir écouté.
Merci Marion Boulet. C'est la fin de notre émission Les Total Spies de l'océan. Merci à Octave Bord, Jade Gidou, Julien Mécard-Montaville et Marion Boulet. Merci à Maëlys Thibault-Sauvage pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Campus Paris.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les questions que tout le monde se pose sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Je suis Rose, votre présentatrice qui vous emmène avec moi dans cette émission spéciale réalisée par des élèves de 4e 2 du collège Sainte-Clotilde. Nous sommes en direct sur 93.9 FM et nous allons parler de l'uniforme dans les collèges. Au programme aujourd'hui, pour en parler, nous écouterons Héloïse qui nous expliquera les différents arguments sur les uniformes. Nous accueillerons ensuite Victoire qui nous parlera de la tricolorerie à propos de l'uniforme. Nous finirons cette émission avec Lou qui nous donneront son avis personnel. C'est parti pour les questions que tout le monde se pose.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
Notre chroniqueuse Héloïse s'installe en studio. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Aujourd'hui, tu viens nous parler du port de l'uniforme. Pourquoi le port de l'uniforme paraît-il être obligatoire ?
Eh bien, des collectifs territoriaux et des établissements volontaires veulent tester le port de l'uniforme pour les élèves destiné à réduire les différentes classes sociales, à lutter contre toutes les formes d'inégalité et contre le règne de l'apparence. Ces tenues doivent permettre d'améliorer le climat scolaire et créer une atmosphère de travail et d'égalité au sein de l'établissement.
Y a-t-il d'autres arguments ?
Oui, en effet, les arguments qui sont pour le port de l'uniforme sont marquer une distinction entre le loisir et l'étude, comme plus tard entre la vie privée et la vie professionnelle, et l'uniforme coupe court aux disputes pour savoir comment s'habiller. Et les arguments qui sont contre sont s'habiller permet d'exprimer son identité, donc les uniformes détruiraient leur personnalité, et sauf si l'école offre les uniformes, l'achat d'une tenue peut coûter cher pour les familles les plus modestes.
Merci Louise.
De rien.
On revient dans un instant, juste après une petite pause musicale.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means. But since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night. I wanna hold you.
On vient d'écouter Dies with a Smile de Bruno Mars et Lady Gaga. L'émission Les questions que tout le monde se pose continue sur Radio Campus Paris. Bonjour Victoire, aujourd'hui tu viens nous parler de la tricolorétrie sur les uniformes. Victoire, pourquoi les uniformes ont-ils différentes couleurs ?
Les collèges choisissent leur uniforme avec une certaine couleur pour refléter une certaine image ou une certaine réputation. Oui, les couleurs nous influencent. Cela s'appelle la tricolorétrie. Les couleurs chaudes stimulent et excitent les élèves, ce qui doit être un collège stressé et avec des émotions fortes. Les couleurs froides rendent calmes et tranquilles les élèves. Le collège doit être serein et influencé positivement. Par exemple, le rouge nous montre des émotions fortes et le vert est une couleur qui rassure, donne de l'harmonie et de l'abondance.
Et pour le blanc et le noir ?
Le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, mais influencent aussi. Le blanc est signe de la pureté, de la clarté et de la simplicité. Et le noir, de richesse, luxe et sérieux. Donc, les établissements travaillent sur les couleurs de leurs uniformes en fonction de l'image qu'ils veulent refléter.
Merci Victoire. Bonjour Lou.
Bonjour.
Tu viens nous donner ton avis sur l'uniforme. Pour toi, l'uniforme est-il utile ou inutile ?
Pour moi, l'uniforme est inutile parce que cela nous prive d'exprimer notre personnalité dans notre style. Si nous portons tous le même uniforme, alors nous serons tous pareils. Par exemple, dans un débat. Si nous avons tous le même avis, ce n'est plus un débat.
Mais ne trouves-tu pas des points positifs à l'uniforme ?
Si. Grâce à l'uniforme, les élèves ne se font plus discriminer à cause de leur style vestimentaire. Les élèves n'ont plus à se soucier de comment s'habiller le matin. Ainsi qu'il n'y aura plus de soucis par rapport aux professeurs à cause de la tenue vestimentaire.
Merci Lou.
De rien.
C'est la fin de notre émission, les questions que tout le monde se pose. Merci à Lou pour ton incroyable billet d'humeur. Merci aussi à Héloïse pour ses différents avis donnés. Et pour finir, merci à Victoire pour ses explications à propos des couleurs. Merci à Maëlys pour la réalisation de cette émission. Bonne soirée à tous.